Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Eh bien, je vais vous raconter une guerre et je vais même vous la raconter longtemps. C'est-à-dire qu'on va faire 4 émissions dessus. Parce que c'est l'histoire d'une guerre que l'on dit « guerre de 100 ans », mais dans les faits, elle a duré 300 ans. Elle a commencé au temps d'Aliénor, duchesse d'Aquitaine, laquelle épouse le très ennuyeux roi de France, Louis VII. Nous sommes en 1152. Ils ont 2 filles, malheureusement pas de fils. Alors on se sépare, le plus légalement du monde d'ailleurs, car à bien y regarder, en cherchant bien, on trouve qu'ils sont cousins, même lointains, mais à l'époque, des cousins lointains ne s'épousaient pas. Eh bien, Aliénor ne reste pas longtemps célibataire. Elle épouse Henri Plantagenet, qui devient roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II. Le roi de France, il a désormais comme vassal, eh bien, un autre roi. Un vassal pourquoi ? C'est parce que les Plantagenets possèdent des territoires en France. Et quand ils possèdent un territoire, ils doivent jurer fidélité au roi. Ils sont les vassaux du roi. Donc, il va falloir 30 ans à Philippe Auguste, le fils de Louis VII, remarié à Adèle de Champagne, et même en troisième noce à Constance de Castille, pour briser Henri II. Il arrive à lui prendre Château-Gaillard en 1204, et il le bat, bien sûr, à la célèbre bataille de Bouvines en 1214. Le petit-fils Saint-Louis, lui, il renonce à jeter l'Angleterre hors de France. Il possède ce roi d'Angleterre, la Guyane. Pourquoi ? Parce qu'il en a hérité de sa grand-mère, Aliénor. Il possède aussi le Quercy, et la Saintonge. Alors je vous passe les escarmouches. En tout cas, le roi d'Angleterre, par ses possessions en France, est le vassal du roi de France et il doit lui prêter hommage. C'est-à-dire, il y a toute une cérémonie où il met ses mains dans les mains du roi en lui disant qu'il est son vassal. Eh bien, Henri II, il trouve ça très, très humiliant. Alors il tergiverse. D'autant plus que le nouveau roi de France n'est pas un descendant direct de Philippe le Bel. Alors je fais un tout petit rappel très bref. Philippe le Bel, il a eu 3 fils qui lui ont succédé. Aucun des fils n'a eu un enfant mâle. Alors on est passé à une branche cousine, la branche des Valois. Et celui qui règne, c'est Philippe VI de Valois. Alors il se dépêche d'envoyer des émissaires à Londres pour dire au roi d'Angleterre, qui est maintenant Édouard III, « il faut que vous veniez en France parce que vous devez me prêter hommage. C'est-à-dire, vous devez reconnaître que moi, je suis votre suzerain. » Ça ne plaît pas du tout au roi d'Angleterre, qui rappelle que sa mère, Isabelle, est la fille de Philippe le Bel. Et alors, il ne voit pas pourquoi, lui, qui est né quand même petit-fils de roi, il doit prêter hommage à un fils de comte. Ben oui, parce qu'il n'était que comte avant de devenir roi Philippe VI de Valois. Alors, ce Philippe VI, il dit, ça serait bien ennuyeux de confisquer le duché d'Aquitaine, parce que tout à fait bien, il rapporte quand même des revenus. Finalement, Édouard III dit, je vais quand même traverser la Manche. Il a d'ailleurs de sérieux ennuis dans son royaume, où son pouvoir est battu en brèche, en particulier par les Écossais. Alors il annonce qu'il va venir en France et qu'il va prêter hommage pour la Guyenne. Les deux rois se rencontrent, ça a lieu à Amiens, en juin 1329. Et on fait la fête, une véritable fête. On honore le roi d'Angleterre, mais on s'entoure de témoins prestigieux pour la cérémonie, pour être sûr que la cérémonie ait bien lieu. Alors, Édouard fait son hommage le 6 juin, mais avec des restrictions pour les possessions qui sont autres que la Guyenne, par exemple pour la Saintonge. Alors Philippe VI, il n'est pas content, il réunit une commission d'experts à Paris en février 1330 pour obliger Édouard à prêter serment pour toutes les possessions qu'il a en France. Pendant ce temps-là, le roi d'Angleterre, il fait des recherches dans les archives pour savoir que sont exactement ses droits et ses devoirs. Et le 30 mars 1331, il reconnaît qu'il ne doit hommage que pour la Guyenne. En avril 1331, donc, le roi d'Angleterre rencontre Philippe VI près de Pont-Sainte-Maxence, ça se trouve dans l'Oise. Il reste 5 jours. Alors, de quoi est-ce que les deux souverains ont parlé ? De la Guyenne. Édouard se fait promettre de l'argent pour prix de la destruction du château de Saintes. Et il obtient aussi de ne pas raser les forteresses que la trêve de 1327 lui avait fait obligation de démolir. Chacun est à peu près content, même le pape. Pourquoi ? Eh bien parce que si les rois chrétiens s'entendent bien, ils vont pouvoir partir en croisade. Bon, on en reparlera, hein ? On parle même de mariage. Bon, ça, il n'aura pas lieu. Bon, on pense que la paix est faite, lorsque soudain, le roi de France, Philippe VI, rappelle à Édouard que l'Écosse de David Bruce est comprise dans la paix. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, l'Écosse ? Eh bien, depuis 40 ans, l'Écosse, c'est une épine dans l'épiderme anglais. Et c'est un pion dans la politique française, pour bien sûr ennuyer le roi d'Angleterre. Hein. L'Écosse veut être indépendante. L'armée d'Édouard II, le précédent, a été écrasée par les Écossais. Alors Édouard III, le fils, reprend l'affaire en 1333. Et le roi de France, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il ne vient pas au secours des Écossais, il se contente d'observer les choses. Et lorsque les Écossais sont battus, il offre tout bonnement l'hospitalité à Robert Bruce à Château-Gaillard. En mars 1836, le roi se rend à Avignon, où le nouveau pape, je vous rappelle, j'ai fait toute une émission là-dessus, qu'on a eu des papes en France, en Avignon, pendant longtemps. Donc le nouveau pape, il s'appelle Benoît XII. Et Benoît XII, il commence à se dire, on est quand même bien mieux à Avignon qu'à Rome, donc je vais rester à Avignon. Philippe veut partir en croisade, le pape est tout content, la flotte est prête, et puis le pape réfléchit et il dit non, pas pour l'instant. Alors Philippe VI dit bon, ben alors je vais occuper ma flotte à autre chose, et la flotte part vers la mer du Nord. Ah, il y en a un qui a peur, c'est Édouard, parce qu'il se dit alors, si le roi de France amène ses navires dans la mer du Nord, c'est sûrement qu'il veut envahir l'Angleterre. Ben non, Philippe, il va tout bonnement aider les Écossais. Alors Benoît XII parvient à tempérer les ardeurs du roi, et même la course aux armements quand même reprend entre Édouard et Philippe. Seulement, on veut bien armer deux armées, mais il faut des sous. Et de chaque côté, eh bien, on en manque. Nous allons faire une première pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la guerre de 100 ans qui, en fait, a duré bien plus de 100 ans. On peut dire qu'elle a duré 300 ans parce qu'elle a commencé dès Aliénor d'Aquitaine. Alors là, on en est au fait que Édouard III, le roi d'Angleterre, et Philippe VI de Valois, le roi de France, sont en train d'essayer de monter une armée, mais des deux côtés, l'argent manque. Et alors, là qu'éclate en Flandre une guerre civile entre deux grosses villes, Gand et Bruges. Le comte de Flandre, qui est le vassal du roi de France, demande alors à Philippe de venir l'aider. Si bien que le roi de France et ses barons arrivent, et c'est la victoire. Les villes de Flandre font soumission, le comte de Flandre rétablit son autorité, et on peut dire que cette victoire-là a affermi quand même la position de Philippe VI en France. Parce que Édouard III dit toujours que c'est lui le roi de France, parce qu'il descend directement de Philippe le Bel. Au printemps 1336, l'Angleterre tremble à l'idée d'une invasion française pour aider les Écossais. Édouard III décide alors d'attaquer sur le continent. Il s'avise que ses barons s'ennuient en faisant dériver vers le continent leurs besoins d'action et leur soif de profit, parce qu'à chaque fois, évidemment, il y a des butins à ramasser, hein. Il met pour un temps sa couronne à l'abri des complots. Depuis 20 ans, la cour d'Angleterre est un nœud de vipère. Les clans s'affrontent pour le pouvoir et les exécutions succèdent aux exécutions, les complots aux complots. Donc Philippe VI prépare la guerre en prélevant de l'argent où donc ? Ben à l'église. L'église qui a de l'argent parce qu'on lui paye ce qu'on appelle la dîme, c'est-à-dire un dixième des récoltes. Et normalement, cet argent-là, en principe, devrait servir pour faire les croisades. Bon, en réalité, le roi de France se l'approprie. Vers la Toussaint de 1337, arrive à Paris Henry Burgers, l'évêque de Lincoln. Il est porteur d'un message du roi d'Angleterre, adressé à Philippe VI de Valois, et il met sur le papier « qui se dit roi de France ?» C'est une mise en cause encore de la succession à la couronne de France et une déclaration de guerre en même temps. Le Parlement anglais réuni à Nottingham a voté les subsides qui ont été demandés par Édouard III pour financer la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait, Édouard III, avec ces sous-là ? Eh bien, il a armé une flotte de guerre, et il a envoyé des armes en Guyenne. Pour contraindre les villes flamandes à se tourner par intérêt vers l'Angleterre, il a interdit, à la fin de 1336, toute exportation de laine anglaise à destination de la Flandre. Eh bien, Philippe VI n'est pas en reste. Il masse sa flotte en Normandie. Le 24 mai 1337, il décrète la confiscation du duché d'Aquitaine. Alors, vous pensez bien que si Édouard III va sauter au plafond, le pape Benoît XII, pensant toujours aux croisades, essaie d'arranger les choses, on peut dire que c'est raté. Alors on va se battre pour des histoires de captation d'héritage, pour des détournements de fiefs, pour des empiétements du suzerain sur les droits naturels de son vassal, pour des manquements du vassal à la fidélité due en raison de l'hommage. On se cherche des alliés des deux côtés, et Édouard III, lui, il se croit tout permis. Il reçoit à Coblence l'hommage des vassaux de l'Empire, à l'exception de l'évêque de Liège qui ne veut pas. Il noue des relations avec le comte de Genève, avec celui de Savoie. Même le duc de Bourgogne lui prête une oreille complaisante. Il va jusqu'à commander une couronne fleur-de-lysée pour se faire couronner, lui, roi de France. Il se voit déjà à Reims. Le roi de France, il se cherche aussi des alliés, bien sûr. Alors il en a. Il a le comte de Savoie, celui de Genève, du Luxembourg, le roi de Bohême, le duc de Basse-Bavière. Gênes s'engage même à fournir des navires, et il a aussi comme allié Alphonse, le roi de Castille, qui promet un soutien maritime. Donc les deux armées sont constituées, les deux flottes sont constituées. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage dans ces armées ? Eh bien, on y trouve de tout, il y a des nobles, mais il y a aussi des mercenaires, et il y a aussi même des roturiers. Les troupes ne sont pas très nombreuses, sauf s'il s'agit d'assiéger une ville. Et si on s'en tient aux effectifs, Eh bien, le roi de France a gagné d'avance. On peut dire que c'est la lutte d'un royaume de 20 millions d'habitants, la France, contre 4 millions, l'Angleterre. Il faut ajouter qu'Édouard doit faire traverser la Manche à ses troupes. C'est une perte de temps et c'est une perte d'argent. Alors, en revanche, il jouit d'une supériorité dont son adversaire n'est pas conscient. Il a une infanterie diablement efficace. L'armée anglaise dispose d'excellents archers gallois. Parce que l'arc, il est plus rapide que l'arbalète des Français. Les spécialistes disent que un archer gallois pouvait tirer 3 flèches pendant qu'un Français, avec son arbalète, n'en tirait qu'une. Alors l'affaire commence mal pour Édouard. Il y a une première expédition qui est prévue vers la fin de 1337 et aussitôt décommandée officiellement pour faire plaisir au pape Benoît XII qui prêche toujours la concorde entre les princes chrétiens pour pouvoir aller faire la croisade. En réalité, il s'arrête tout bêtement parce qu'il n'est plus de sous. Au printemps 1339, l'armée anglaise finit quand même par débarquer à Anvers. Elle attend l'arrivée de contingents allemands pour les aider, il ne va pas venir. À l'automne, Édouard assiège Cambrai sans aucun succès. Il demande à ce moment-là à Philippe VI un jour de bataille. Vous savez qu'à l'époque, on se battait face à face, au jour convenu, au moment convenu. Les Français sont quelque part en Artois, et pendant ce temps-là, les navires du roi de France harcèlent les convois anglais. Et 5 des plus beaux navires anglais sont coulés. En Flandre, le temps, on peut dire, travaille pour Édouard III. Louis de Nevers, qui est le comte de Flandre, il aime bien vivre à Paris. Alors les Flamands, évidemment, ne sont pas contents. Ils aiment beaucoup leur commerce de laine avec l'Angleterre. Donc, ils se révoltent contre le comte de Flandre. Ça sera beaucoup de fois dans leur vie. Et comme les deux armées qui n'ont pas encore combattu sont dans le coin, les Flamands se disent que l'armée française pourrait bien venir rétablir l'autorité du comte. Alors un accord, pourtant, avait été fait entre les Anglais et les Flamands. Et ça se conclut le 3 décembre 1339. Les Flamands reconnaissent, ça c'est pour ennuyer Philippe VI, hein, les Flamands reconnaissent Édouard III comme roi d'Angleterre. Alors celui-là, il est tout à fait content. Il n'est pas à court de générosité, si bien qu'il offre de financer la défense des villes flamandes contre le roi de France. Bon, la vérité, c'est qu'il n'en a pas les moyens. En tout cas, il prend le titre, carrément, de roi de France et d'Angleterre. Apprenant que des renforts vont être expédiés d'Angleterre, Philippe VI dépêche alors sa flotte en mer du Nord. Il concentre sur quelques 200 navires dans les ports de la Haute-Normandie et de la Picardie. Ça, c'est un tort qu'il a eu. Il voulait faire barrage au débarquement de la flotte anglaise sur le sol français. Donc, il met là tous ses navires. Dans les derniers jours de mai, la flotte du roi de France quitte Harfleur, l'Eure et le Crotoy. Début juin, les 200 bateaux prennent position au large des côtes de Bruges pour bloquer l'avant-port de l'écluse. Il ne faut pas que les Anglais passent. Cependant, la faiblesse de cette marine française, qui d'ailleurs est excellente, c'est son commandement. Les deux personnes qui la commandent, je vais vous donner leur nom, Quiéret d'abord, que Philippe VI a fait amiral alors qu'il a fait son apprentissage de chevalier sur un cheval et pas du tout sur un bateau. Et puis l'autre, Béhuchet, il est audacieux, il est courageux, mais alors il n'a vraiment aucune compétence en ce qui concerne la marine. Et malheureusement pour Philippe, Édouard a réuni aussi des navires, 250, avec 15 000 hommes d'armes à bord. C'est un des plus grands combats navals de l'histoire qui s'ouvre le 24 juin 1340. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Thank you.
Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la guerre de 100 ans qui en réalité en a duré 300. Et pour l'instant, le roi de France, Philippe VI de Valois, a mis tous ses navires pour empêcher que les Anglais rentrent dans Bruges, devant Bruges, à ce qu'on appelle l'avant-port de l'Écluse. Et voilà Édouard III, le roi d'Angleterre, qui arrive avec ses propres navires. Malheureusement pour la France, qui pourtant a la supériorité, elle est commandée par deux personnes qui sont absolument des incapables en ce qui concerne la marine. Les chefs de l'escadre française montrent tout de suite leur manque de sens tactique. Puisque l'ordre est d'empêcher les Anglais de débarquer, on va leur barrer la route de Bruges. Le Génois Barbavera, il a beau expliquer aux Français qu'il faut se donner de la place pour manœuvrer. Il leur dit de prendre la pleine mer et que c'est là qu'ils vont rencontrer les navires anglais. Mais que s'ils restent là, eh bien, les Anglais vont avoir le vent dans le dos, le soleil et la marée avec eux, et ils vont vous coincer. Seulement, les deux Français à la tête de la flotte sont complètement têtus, et la flotte reste là pour faire barricade. Les Anglais qui sont au large, pour l'instant, ils n'ont pas l'air de bouger. Alors les Français sont tout contents, ça les fait même rire. En fait, Édouard attend tout simplement l'heure de la marée. La marée arrive, un petit peu avant midi. La flotte anglaise commence donc à avancer. Elle a le vent en poupe. Et la flotte française, elle est coincée devant Bruges. Et elle ne peut pas tenter la moindre manœuvre, parce que comble de sottises, Quiéret et Béhuchet ont enchaîné les bateaux pour renforcer la barricade. Il n'y a que 4 nefs qui sont libres à l'avant, c'est tout. Ah bien, vous avez deviné la suite, c'est la défaite française absolument épouvantable de l'Écluse. Les bateaux français sont coincés. Cependant, Édouard III, il a été grièvement blessé durant cette attaque. Mais il est absolument vindicatif. Fou furieux, il fait pendre Béhuchet et fait décapiter Quiéret. Les quelques Français qui se sont sauvés à terre, manquent de chance, parce que où sont-ils? Pas loin de la Flandre, ils ont été pris par les Flamands et tués. Désormais, les Anglais, on peut le dire, ont la maîtrise de la mer. Mais si l'Écluse est une victoire dans l'immédiat pour Édouard III, elle ne lui permet pas de débarquer pour tenter la conquête de la France entière. Je vous rappelle qu'il s'est fait nommer lui-même roi de France et d'Angleterre. Alors pour l'instant, rien n'est gagné. En cet été 1340, l'armée anglaise assiège Tournai, tandis que les Français tiennent plus ou moins bien la région lilloise. Édouard III veut une bataille rangée. Philippe VI, lui, il n'en veut pas. Il a tout intérêt à laisser s'établir en France la crainte d'une invasion anglaise, parce que les Français qui rechignent à payer un nouvel impôt qui s'appelle la gabelle, l'impôt sur le sel, s'ils ont peur des Anglais, ils vont payer. Et l'argent ira évidemment à l'armée. Pour l'instant, Édouard III, qui s'était vu établi en France, il n'a conquis finalement que la Flandre. Une fois de plus, le pape Benoît XII offre sa médiation. Il pense toujours à sa croisade. Surgit alors, dans l'affaire, un personnage tout à fait étonnant, qui s'appelle Jeanne de Valois. Alors, qui est-elle, cette Jeanne de Valois ? Eh bien, elle est la sœur du roi Philippe VI. Elle est veuve du comte Guillaume de Hainaut. Elle est mère de la reine d'Angleterre. Sa fille Philippa de Hainaut a épousé Édouard III. Elle est abbesse du monastère cistercien de Fontenelle, près de Valenciennes. Alors, elle trouve que c'est bien suffisant, cette histoire de bataille. Elle réussit à convaincre son frère, le roi d'Angleterre, son gendre, le roi d'Angleterre, le temps de souffler un peu. Le 25 septembre 1340, la trêve est conclue. Fin de la première passe d'armes de la guerre de Cent Ans. Mais hélas, la guerre va reprendre en 1345. À Benoît XII succède le pape Clément VI, toujours à Avignon. Il essaye de raisonner Édouard III, qui veut toute la Guyenne, et Philippe VI, qui en a pris un morceau. Seulement, les deux rois sont têtus. Alors, le pape Clément VI, il abandonne. Il dit, ça va bien, j'en ai assez. Voilà que se présente une occasion pour Édouard III de pénétrer en France. Quelle occasion? Eh bien, c'est la succession du duché de Bretagne. Parce que le duc de Bretagne, Jean III, est mort, il n'a pas d'héritier mâle, il n'a comme héritière que sa nièce Jeanne de Penthièvre. Le frère de Jean III, qui s'appelle Jean de Montfort, il dit que finalement, c'est lui qui devrait succéder à la Bretagne. Et comme le roi Philippe VI fait la moue, que fait Jean de Montfort? Ben, il appelle au secours le roi d'Angleterre. Tout content, Édouard III débarque avec une forte armée le 12 juillet 1346 à Saint-Valahougue, c'est tout à fait en haut du Cotentin. Pourquoi est-ce qu'il arrive en Normandie? Parce que le seigneur de Normandie, Geoffroy d'Harcourt, a des démêlés avec le roi de France. Donc, il dit au roi d'Angleterre, venez donc chez moi. Le roi de France avait condamné le seigneur de Normandie à une très forte amende pour avoir violenté un prélat. Et Geoffroy pense que c'est rien du tout de s'attaquer à un prélat et il ne digère pas du tout l'intervention du roi de France et l'argent qu'il a dû à payer. Donc il veut se venger, d'où son appel à Édouard III. Le Parlement l'ayant aussi condamné, il s'est sauvé. Alors le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque le duc de Normandie se sauve, eh bien je confisque son royaume. Qui est étonné de voir débarquer Édouard III à cet endroit? Ben, c'est le roi Philippe VI. La côte normande n'a pas de forteresse, les châteaux n'ont pas de garnison, partout les vieilles murailles sont en piteux état. Que va faire Édouard III? Eh bien, pour l'instant, c'est vraiment une promenade pour lui, parce qu'il se comporte en pays conquis, les habitants sont complètement atterrés, mais ils n'ont rien pour se défendre. Alors, Philippe VI se dépêche d'assembler une armée improvisée autour de Paris. Et il apprend que les villes de Saint-Lô et de Caen sont prises. Puis c'est le tour de Louviers. Édouard cherche à passer la Seine. Dans l'entourage de Philippe, on tremble. Alors, pour la capitale, on se dit, mince, il arrive jusqu'à Paris. Et jamais depuis le siège par les Normands en 885, les Capétiens n'ont perdu Paris. Or, la ville est indéfendable. Elle n'est pas fortifiée. L'enceinte qui avait été construite par Philippe Auguste, elle est complètement en morceaux. En fait, Édouard, il ne tient pas vraiment à se rendre à Paris. Pourquoi? Parce que ça n'est pas là qu'on sacre le roi. Alors, il décide de gagner Boulogne ou Calais. Philippe est tout content. En évitant Paris, Édouard a montré qu'il est au bout de ses capacités du moment. Il est moins fort que le craint le roi. Édouard force les étapes, laissant les villes picardes qui se défendaient bien. Et Philippe, lui, il a concentré toutes les forces dont il peut disposer sur les traces des Anglais. Le temps travaille pour lui parce que les Anglais sont fatigués. Ils cherchent à passer la Somme, talonnés par les Français. Le pauvre Philippe va échouer à cause d'un pauvre bougre qu'Édouard a fait prisonnier. Comme quoi l'histoire est quand même bizarre quelquefois. Hein. Ce pauvre bougre-là, qui est un ordinaire, hein, ça n'est pas un chevalier, c'est un petit bourgeois. Il sait que personne ne paiera une rançon pour lui. Or, il connaît bien les lieux. Et il dit à Édouard III qu'il connaît un endroit où il pourra passer la rivière. Eh bien, Édouard III lui laisse non seulement sa liberté, mais lui permet aussi de lui donner des compagnons et 100 nobles d'or, 100 pièces d'or. Les Anglais, alors, passent la rivière, malgré les contingents de plusieurs villes, Abbeville, Saint-Riquier, Montreuil-sur-Mer, Le Crotroy. Nous sommes le 24 août. Le roi de France, à ce moment-là, se cantonne à Abbeville. Le vendredi 25 août, le roi d'Angleterre arrête son armée à Crécy. Les Français ne sont pas loin. Autant les attendre, se dit Édouard III. Le roi de France apprend par ses éclaireurs que les Anglais sont dans le coin et lui, il veut la bataille. Alors il se dit, bon, on va faire la bataille pour le lendemain. Pour lui, le lieu n'importe pas, puisqu'il sait qu'il est le plus fort, son armée est plus importante. Alors le vendredi soir, il y a une grande fête dans les deux camps, on est tout content parce que le lendemain, on va se battre. Mais quand je vous dis ça, qu'ils sont tout contents, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. La bataille, ce n'est pas n'importe quel combat, n'importe quel affrontement plus ou moins improvisé. La bataille, on peut dire que c'est une véritable liturgie de cette religion qu'est la chevalerie. C'est l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Si on est vainqueur, c'est que Dieu est avec nous. Édouard III sait qu'il est en état d'infériorité, mais on fait la fête quand même. Nous voici le matin du samedi 26 août. Philippe entend la messe, monte à cheval et suce aux Anglais. Édouard a réparti ses troupes en trois corps d'armée, une autour du roi qui servira de réserve et les deux autres qui engagent la manœuvre et il attend. Les Français chevauchent, quatre cavaliers partis en éclaireur disent que les Anglais attendent. Alors le roi français ordonne une petite halte pour se reposer. Mais à l'arrivée, on n'est pas d'accord. On veut continuer. L'avant-garde croit qu'on veut la doubler. Chacun dépasse l'autre pour ne pas perdre l'honneur de la bataille. Si bien que dans l'armée française, c'est une véritable bousculade où l'arrière traverse tout pour se trouver à l'avant, où l'avant ne veut pas que l'arrière soit à l'avant parce que eux vont avoir l'honneur de se battre. Et d'un coup, on se trouve devant les Anglais bien rangés. Chez les Français en désordre, on s'aperçoit qu'on n'a rien fait pour voir la tactique que l'on va prendre. Il est désormais trop tard pour remettre la bataille au lendemain. Philippe VI, il a l'avantage du nombre, mais il n'a aucun génie pour l'organisation. Le gros de son armée s'étire encore entre Abbeville et Crécy. Les Français sont fatigués. Les Anglais, eux, sont en position. Ils ont eu tout le temps d'apprendre et de regarder le terrain. Les archers anglais sont en position. Philippe fait alors mettre devant les arbalétriers génois, embauchés à prix d'or. Seulement ceux-là, ils sont fatigués. Ils trouvent que l'arbalète, c'est lourd. Donc, ils ne veulent pas tirer. Et voilà qu'éclate un orage. Alors, les Français et les Anglais sont trempés. Philippe aurait dû attendre le lendemain pour la bataille rangée, mais il leur donne l'attaque tout de suite. Les archers anglais font pleuvoir des volées de flèches sur les Français. Ils ont bien pris soin, ils ont l'habitude de la pluie en Grande-Bretagne, donc ils ont mis à l'abri leurs arcs. Et les arbalétriers génois, eh bien eux, la corde qu'il y a dans leur arbalète, elle a été complètement trempée par la pluie, si bien qu'elles n'ont pas eu le temps de sécher. Ils ne peuvent pas riposter. Qui plus est, les Anglais font commencer à envoyer leurs bombardes, si bien que la catastrophe arrive. Les Génois ne peuvent pas tirer. Les archers anglais, gallois exactement, tirent des flèches à n'en plus finir. Les Génois se sauvent, laissant là leurs armes. Philippe VI se sent trahi et il ordonne de tuer ces Génois qui ne servent à rien. Face aux archers anglais, il n'y a plus maintenant que qui ? La cavalerie française. Seulement le chevalier, il est vêtu d'une armure trop lourde, qui finalement n'est qu'une armure défensive. Elle ne sert que dans les corps à corps. Philippe, lui, c'est un bravache. Ceux qui l'entourent aussi. À la pointe de l'épée, les Français ont l'avantage. Seulement, ils ne parviennent pas à passer le barrage des archers et la pluie de flèches qui leur arrive dessus, si bien que la chevalerie française s'effondre. L'honneur exige plutôt se laisser massacrer que de renoncer. Alors, on descend de cheval et on se bat par terre. Un instant, on croit que la bataille peut s'engager selon les règles du corps à corps de la cavalerie française. Seulement, les archers anglais continuent à tirer. Alors, on se bat quand même, à l'arme blanche. L'engagement dure. La nuit tombe et comprenant qu'il n'arrivera pas à donner un ordre quelconque, Philippe VI abandonne et vient frapper au pont-levis du château de La Broye. Le pont s'abaisse, le châtelain reçoit le roi et restaure tout le monde. Ça a été une grosse faute vis-à-vis de la population française. Pour elle, le roi a fui. Le roi donc repart pour Amiens. Il se renseigne pour savoir comment Crécy s'est terminé. Eh bien, ça s'est terminé par des centaines de morts. Le propre fer de roi, Charles, comte d'Alençon et du Perche, a péri dans le désastre. Tout le monde est d'accord, alors à ce moment-là, pour suspendre les hostilités pendant 3 jours pour enterrer les morts. L'autre fils de Philippe, le futur Jean le Bon, il juge avec sévérité la fuite de son père. Édouard continue son chemin vers Calais, en n'oubliant pas de mettre tout à sac sur son passage. Il y met siège devant Calais. Les bourgeois de Calais pensent qu'il va se lasser. Ils espèrent toujours le secours du roi Philippe. Mais roi Philippe, il est carrément retourné à Paris. Pourquoi ? Pour réunir les états généraux, parce qu'il n'y a plus de sous. Calais tient, mais Édouard parvient à couper la voie du ravitaillement. Philippe arrive devant Calais. Les Anglais creusent des fossés pour empêcher les Français de passer. On se regarde pendant 3 jours. Et les Français se retirent vers Arras. À Calais, on meurt de faim. Les bourgeois veulent négocier leur reddition. Le roi d'Angleterre refuse, mais les barons anglais tentent de le fléchir. Ils en ont assez du siège. Alors Édouard désigne 6 bourgeois tirés au sort qui paieront pour les autres. Dans ces 6 bourgeois, il y a Eustache de Saint-Pierre qui se porte volontaire et 5 autres qui suivent. Édouard veut les faire décapiter tout de suite. Eh bien, la reine Philippa intervient et elle pleure tellement, elle supplie tellement Édouard III que finalement, elle les sauve. Édouard à Calais, qu'il ne détruit pas, il y fait même venir des marchands anglais. Philippe VI est vaincu, pire, il est ridicule, fugitif à Crécy, incapable de secourir Calais. Il est méprisé de ses sujets, furieux de devoir payer pour quelque chose qui ne rapporte rien. Il n'a pas une tête politique du tout, ça n'est pas un capitaine de génie, mais il a un fils Jean, moyennement intelligent, très cultivé, qui va succéder à son père en 1350. Ce n'est pas le chevalier d'autrefois, c'est un homme d'État qui sait mener une discussion, entendre les arguments d'autrui, prendre le temps de la réflexion avant de décider. Mais la France est divisée, à force de maladresse, le roi Jean a dressé contre lui une partie des barons français. Le roi Édouard III, lui, il est fatigué des affaires dans lesquelles s'engagent donc ses partisans, si bien que la Bretagne, qu'il veut aider, elle lui coûte plus cher qu'elle ne lui rapporte. La Flandre l'a lâché. L'alliance avec le roi de Navarre l'a complètement déçu. Le Parlement anglais le prend mal, qu'on élevait une armée à grands frais pour finalement n'en rien faire. La guerre féodale s'enlise. Il en conclut qu'il n'a pas besoin d'alliés et qu'il va aller tout seul s'opposer à la France de Jean le Bon. Nous verrons la semaine prochaine ce qui va en résulter. Au revoir à tous.